Bonjour à chacun. Je voudrais vous parler ce matin de ce qu'on ne voit pas, de ce dont on n'entend pas beaucoup parler. Alors, dans la Bible. Donc, il ne s'agit pas. Je ne vous parlerai donc pas de coronavirus ou de confinement. Je suis sûr que vous êtes très très frustrés à cette annonce, mais je suis sûr que vous pourrez vous rattraper en écoutant une nouvelle fois les informations. Donc, ce qu'on ne voit pas en fait de la vie de Jésus, ce que nous ne voyons pas dans les évangiles de sa vie d'être humain. Alors, je commence par ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est sa naissance. Matthieu et Luc nous en relatent plusieurs aspects. On a même l'information de quelques moments qui se sont passés avant sa naissance, notamment dans le début de l'évangile de Luc, tout un chapitre même. Ce que nous voyons aussi, c'est un flash de la vie de Jésus quand Jésus a 12 ans, toujours dans le même évangile de Luc, lorsqu'il monte à la fête de la Pâque. C'est au chapitre 2, et on lit au verset 52, « Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. » Et puis nous savons aussi ce qui s'est passé approximativement 18 ans après, Jésus, si je puis dire, réapparaît pour son ministère. Et là, on suit son ministère jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc, entre 0 et 12 ans, et puis entre 12 ans et 30 ans, les évangiles ne nous disent rien. Et celui qui s'interroge à ce propos est livré à ses représentations, à son imaginaire. Comment ? Est-ce que nous imaginons que les choses se sont passées? Comment est-ce que nous imaginons son enfance? Est-ce que Jésus pleurait comme les autres? Est-ce qu'il allait à l'école? Est-ce qu'il y avait des écoles d'ailleurs à l'époque? Qu'est-ce qu'il mangeait? Est-ce qu'il mangeait de tous les plats qu'on lui propose? Est-ce qu'il lui arrivait de se mettre en colère? Est-ce qu'il guérissait les malades? Le chat du voisin qui s'était cassé la patte? Est-ce qu'on aimait sa compagnie? Est-ce qu'on aimait lui parler? Quand il y avait un problème, est-ce qu'on allait le voir? Que savons-nous, en fait, tout ça, je voudrais nous amener à réfléchir à... Que savons-nous de l'impact qu'il avait sur son entourage? Est-ce qu'on l'admirait? Est-ce qu'on le méprisait? Qu'est-ce que nous imaginons à ce propos? Car évidemment, on ne peut qu'imaginer. Et bien sûr, on peut aussi se défendre d'imaginer. Parce que nous n'en savons rien et nous ne savons rien de rien. Je vous ai mis en lien une façon que j'ai trouvée inhabituelle et un peu amusante, exotique presque, de se représenter une partie de cette histoire. Donc c'est un tableau du XVIe siècle. Si je puis dire, on lave le linge sale en famille. Et ça a un côté, je trouve, très 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 vie ordinaire et très 21e siècle. Parce que ce n'est pas un travail de femme, mais tout le monde est de service. On voit Marie qui lave, Jésus qui essore, et Joseph qui étend le linge. Et on voit même que on peut faire l'hypothèse que la famille n'est pas très riche parce qu'il y a même un drap percé. Ou abîmé par une branche. Comment est-ce que vous distribuez les tâches à la maison, si vous êtes en famille? Façon de se représenter une partie de la vie de Jésus. Et alors, il y a des textes anciens qui se proposent de nous raconter ce qui est laissé sous silence. Ce sont les évangiles qu'on appelle apocryphes, le mot veut dire caché. Et on a un certain nombre de vies de Jésus enfant, donc qui n'ont pas été retenues dans les textes inspirés. Et qui insiste par exemple beaucoup sur les miracles que Jésus aurait fait. Et à lire les textes, on comprend vite que dans leur façon de dépeindre les choses, il valait mieux être copain avec Jésus que son ennemi, parce que ceux qui faisaient du mal, ceux qui étaient ses ennemis, ils n'allaient pas très loin. Il y a des miracles quasiment à toutes les pages, et des miracles parfois violents. Comme beaucoup aujourd'hui, les chrétiens ont proposé ces récits, et il se disait probablement que les miracles qu'on pouvait raconter à propos de Jésus étaient une façon de Il espérait sans doute de donner de la crédibilité, de donner de l'intérêt, de faire adhérer à la foi. Voilà ce que Jésus a fait, enfin, c'est admirable, donc réfléchissez. Les textes inspirés, eux, ne disent rien de tout ça. Et je reviens à ces textes parce que c'est eux qui comptent. On pourrait dire dommage. Dommage parce que peut-être de savoir comment Jésus a grandi à la maison, ça pourrait nous intéresser, il me semble. Et ce n'est pas que de la curiosité, parce que ça pourrait aussi nous inspirer. Parce que, sauf erreur de ma part, nulle part dans le Nouveau Testament, nous n'avons de portrait qui nous raconterait à quoi ressemble une vie de croyant dans une famille croyante au premier siècle. Je le redis autrement, nulle part on ne nous raconte le quotidien, la vie ordinaire d'un croyant dans sa famille. On a des invitations dans le Nouveau Testament sur les postures à avoir les uns à l'égard des autres, le souci des uns à l'égard des autres, l'invitation par exemple à ce que femme et mari ne se privent pas sexuellement l'un de l'autre, par exemple, c'est 1 Corinthiens 7, l'invitation aux enfants à obéir à leurs parents, donc des invitations pratiques qui concernent des domaines de la vie commune. Mais on ne nous raconte pas, on n'a pas de traces de témoignages de ce qui se vivait au quotidien. Des témoignages qui nous diraient le mode de vie de ces familles, le mode de vie de ces croyants au sein de familles, les relations entre ces familles de croyants et les voisins, la façon dont leur façon de vivre pouvait être observée par les voisins. Et on pourrait se dire, là, si nous savions par exemple comment Jésus a grandi parmi les siens, peut-être que ça pourrait nous aider, nous, dans notre vie quotidienne, auprès de nos voisins, de nos collègues de travail, de nos proches. Mais voilà, les textes inspirés ne disent rien de tout ça. Ou presque. Et je vais lire deux textes. Le premier sera dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, et à partir du verset 2. On se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères, il s'agit de Jésus là, donc les frères de Jésus, lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu as accompli de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voit. » En effet, les frères de Jésus, eux-mêmes, ne croyaient pas en lui. Avant de lire le deuxième texte, je voudrais tisser avec nous. Comment imaginons-nous qu'un chrétien devrait être dans sa famille, qu'elle soit chrétienne ou non? Comment imaginons-nous qu'il faudrait que nous soyons? Quel programme nous assignons-nous à nous-mêmes? Comment imaginons-nous que nous aurions à être pour que, même si nous sommes célibataires, parce que nous sommes chrétiens, notre voisin puisse être interpellé? Comment imaginons-nous qu'un chrétien doit, entre guillemets, impacter, je reprends un mot à la mode, très tendance, comment imaginons-nous qu'un chrétien doit être pour impacter son entourage? Qu'imaginons-nous à ce propos? Qu'imaginons-nous, qu'imaginez-vous que vous devez être? Qu'imaginez-vous de votre effet sur votre entourage, sur vos proches? Quelle image de nous, de ce que nous voudrions être, avons-nous en tête? Vous remarquerez que je viens de poser des questions sur ce que nous devrions être, sur l'effet que nous devrions avoir. Et ces formules, je constate qu'elles ont souvent l'effet de générer, peut-être parfois de la mobilisation, mais parfois aussi de la culpabilité. Dès qu'on dit « tu devrais », généralement, c'est un effet prévisible. Et je trouve impressionnant combien nos milieux chrétiens contribuent à générer de la culpabilité. Qui d'entre nous pourrait dire qu'il fait assez bien? Qui ne s'est pas dit, qui ne se dit pas, je devrais être un chrétien rayonnant, tant et si bien qu'en me voyant, mais tout le monde, ou beaucoup en tout cas, devrait être bouleversé. Bon, allez, peut-être pas tout le monde quand même, mais au moins une personne de temps en temps. Qui n'est pas parmi nous, qui ne porte pas en lui comme des désarrois, parce que ce sont ses enfants qu'il a pourtant instruits ou qu'il a amenés à l'Église et qui se sont détournés de la foi ou qui semblent ne pas en faire beaucoup de cas. Peut-être parce qu'il se dit, parce qu'il a raté l'occasion, il a raté des occasions, parce qu'il s'est mal comporté. Qui d'entre nous a prié pour un malade et le malade est toujours malade? Qui a fait l'onction d'huile pour un malade et le malade est mort? Qui garde dans sa tête le souvenir des paroles maladroites qu'il a prononcées et qu'il aimerait bien retirer, mais voilà, on peut pas retirer, on peut pas rembobiner là, on peut pas revenir en arrière. Jésus, lui, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Jésus, lui, serait été différent, nous disons-nous peut-être. Un autre texte me vient donc à la pensée, il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et au verset 54. Je dis, Jésus retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'il disait, mais d'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela? Nous nous disons, Jésus, lui, eh bien de Jésus, lui, nous ne savons rien, ou presque, et nous imaginons beaucoup. Mais je me dis que nous pourrions entendre le peu que nous en savons. La Bible est silencieuse sur sa vie d'enfant, sur les moments qui ont précédé son ministère, sur les 30 ans qui ont précédé ses 3 ans de ministère. Elle n'en parle qu'à 2-3 reprises. Mais dans ces deux textes que nous avons lus, je crois que nous avons un peu, au moins un peu, de quoi nous faire une idée. Jean nous dit que les frères de Jésus, eux-mêmes, ne croyaient pas en lui. Matthieu nous dit que ses concitoyens s'étonnent. Ça alors, comment ça se fait? Il fait des miracles? Qu'est-ce qui lui arrive? Il parle avec sagesse? Qu'est-ce qui lui arrive? D'où est-ce qu'il a reçu tout ça? Est-ce que c'est bien lui? Le Jésus qu'on connaît? Le petit Jésus dont on a le souvenir? Et il liste tous les membres de la famille qui montrent qu'ils connaissent bien les membres de la famille. Autrement dit, si j'entends bien, ce qui se passe dans ces deux récits, ce qui se passe à présent, autant les actes accomplis, les miracles, autant la façon d'enseigner, même s'il y a eu le précédent de l'épisode du temple de Jérusalem à 12 ans, tout ça, autrement dit, c'est apparemment inédit. Et tout ça semble laisser dire aussi que Jésus, de l'extérieur, vu de l'extérieur, avant tout ça, avant l'âge de 30 ans, pendant les 30 ans, ou moins dans tout le temps qu'il a passé au village, Jésus ne semblait pas trancher sur les autres comme quelqu'un de remarquable, d'extraordinaire, mais plutôt quelqu'un d'ordinaire. Extérieurement, un gamin comme un autre, un adolescent, plus tard, comme un autre, un jeune adulte, comme un autre, parmi d'autres, un croyant juif, parmi d'autres. Le rayonnement qu'il a eu ne paraît pas avoir été bouleversant. Et au contraire, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant qui déroute. Ça sort de ce qu'on pouvait savoir de lui. Ça ne colle plus avec l'image qu'on avait de lui jusqu'à présent. Jusque-là, pendant 30 ans peut-être, et 30 ans c'est long, il semble que Jésus ait mené une vie plutôt ordinaire. Et dans sa famille, en tout cas, eh bien, les frères de Jésus ne croient pas en lui. Et pourtant, qui mieux qu'eux avait des atouts dans leur jeu, si je puis dire, pour y voir clair? Ils ont vécu avec Jésus pendant, je ne sais pas moi, 20 ans, 10 ans, jour après jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mangeant à la même table, probablement dormant dans le même lit. Ils ne croient pas en lui. Et c'est d'autant plus dramatique à lire que le chapitre précédent dans l'évangile de Jean vient de marteler que croire en lui donne la vie éternelle. Même si Jésus a été parfait avec eux, ce que je serais prêt à croire, eh bien ça ne les a pas convaincus. C'est étonnant. Je crois que ceux qui ont des enfants ou qui voient des familles évoluer, c'est étonnant les réactions par rapport à la foi que peuvent avoir les mêmes frères et sœurs dans la même famille, les personnes liées par le sang, qui peuvent avoir bénéficié du même enseignement chrétien. Étonnant de voir combien certaines personnes peuvent être bouleversées par un témoignage, par un récit, par une parole biblique, et d'autres, absolument pas. Même contexte, même condition, même cadre familial, même enseignement des parents, mêmes attitudes des parents, mêmes événements, certains se tournent vers Jésus, d'autres le rejettent. En tout cas, c'est ce qu'on voit à ce moment-là du récit de Jean, de l'évangile de Jean. Et je reviens à ces questionnements qui nous habitent sur notre responsabilité, sur notre impact, sur les autres. Où passe donc la frontière de la liberté de l'autre et celle de notre responsabilité dans le choix qu'il fait? Qui sont ceux que nous aimons, nos proches, nos amis, à qui nous avons parlé de la foi en Jésus-Christ, et chez qui ça ne fait pas l'écho que nous aimerions que ça ait? Qui sont ceux que nous désespérons d'atteindre? Quelle est notre part de responsabilité là-dedans? Quels sont les prénoms de ceux pour qui le fait est qu'aujourd'hui, eh bien, nous ne les voyons pas tourner vers Dieu? À propos de Jésus, nous entendons donc les réactions de la foule. N'est-il pas le frère de Jacques, de Simon et de Jude? La suite de la Bible, est-ce qu'elle fait écho à ces paroles de l'évangile de Matthieu? Nous donnera à lire dans le Nouveau Testament une lettre d'un certain Jacques, et la lettre d'un certain Jude, frère de Jacques. Alors s'il s'agit des mêmes, cela veut dire que certains des frères de Jésus seront donc venu à la fois. Alors on n'est pas tout à fait sûr qu'il s'agisse des mêmes, c'était des prénoms répandus, des Jacques, il y en avait beaucoup à l'époque, et probablement il y avait des Jacques, frères de Jude. C'est la suite qui nous dit ce qui se passe. Nous, nous sommes au jour d'aujourd'hui. Quand Jean raconte son récit, il raconte à un moment précis du jour de, un jour précis. C'est la suite de l'histoire qui fait apparaître une évolution, alors que peut-être elle était complètement inattendue, inespérée au moment où Jean raconte l'histoire. Nous, en tout cas, à propos de nos relations, de ceux avec qui nous sommes en relation, à propos de nos enfants, à propos de nos parents, de nos proches, nous n'en sommes qu'à ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Et nous ne savons pas ce que sera demain. Et donc, tout est possible. Dans un sens ou dans un autre. Hein. Jésus, souligne l'évangile de Jean, a fait en son temps, et même du temps de sa discrétion, si je puis dire, même quand il avançait en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes, Jésus a fait en tout temps la volonté de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au moment où il parle, aucun de ses frères n'a cru. Et je crois que personne n'oserait jeter la pierre à Jésus pour cela. Alors pour ce qui nous concerne, nous, que Jésus nous porte à chercher à faire de mieux en mieux sa volonté, nous qui, à la différence de lui, sommes défaillants. Que nous ne nous relâchions pas dans notre attachement à lui, dans l'effort de progrès, dans le souci d'être des croyants qui rayonnent d'un attachement à lui et pour qui cet attachement se matérialise, se transparaît par une flamme en moi, comme le dit un chant que nous chantons parfois, que nous ne nous relâchions pas dans l'effort de progrès, de fidélité. Et que nous ne soyons pas étonnés non plus, forcément, que notre impact, entre guillemets, soit si peu sensible. Que nous ne soyons pas étonnés non plus d'être des personnes ordinaires, des croyants ordinaires. Nous ne sommes pas Jésus. Lui n'a pas eu peut-être le rayonnement que nous pouvons imaginer peut-être quand nous n'avons pas pris connaissance de ces textes. Que le Seigneur nous porte à continuer à être attaché à lui, à chercher à être témoin de lui et à avoir confiance en lui, même si nous défaillons à bien des reprises.